sur Radio Bus, vous écoutez la radio la plus rapide. Radio Gymnase de Nyon, 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 Nyon.
Ah là là, ce jingle, chers auditeurs, chers auditrices, bonsoir et bienvenue sur Radio Gymnase de Nyon, la radio la plus rapide, vous l'avez compris. On se retrouve maintenant, on a un nouveau groupe, on est la team A et on est avec Eleonore. Bonsoir Eleonore.
Bonsoir, bonsoir.
Salut Robin.
Bonsoir à tous.
Coucou Yohanna qui a la technique, est-ce que tu peux nous faire un coucou?
Bonsoir les amis.
Dans notre émission de ce soir, on va toucher à tout. Vous aurez donc la suite du feuilleton sur l'histoire de la préhistoire, on va vous parler de théorie folle, on va vous parler magie, bref, restez à l'écoute, ça promet de monter en chaleur. Et vous, ne voudriez pas manquer cet épisode qui est... un peu spécial.
Mais oh, n'en dis pas plus.
Mais d'abord, partons à Venise, si vous le voulez bien, histoire de découvrir leur culture de l'époque, leurs problèmes, et ça va nous permettre de nous rafraîchir.
Car faut bien avouer qu'on a chaud.
L'hiver est définitivement passé trop vite, mais je suis quand même content qu'on se rapproche de l'été. On va enfin pouvoir ressortir les shorts, la piscine, les claquettes chaussettes, la crème solaire.
Et avec ça, tu rajoutes les brûlures, les malaises, des coups de chaleur, et j'en passe.
Plutôt négatif comme vision. Bon, c'est vrai que la hausse des températures, ça devient insupportable à gérer. Tu parlais de Venise. La ville va vraiment finir sous les eaux si ça continue.
C'est sûr que la situation actuelle est assez délicate, mais ils ont vite commencé à chercher des solutions au 15e siècle.
De quoi tu parles?
Tu ne savais pas? Venise au Moyen-Âge, elle aurait sûrement voulu un peu plus de chaleur. C'est sûr que les souhaits changent au fil des siècles.
Ah, mais toi aussi t'as vu passer l'article, celui qui parle du livre sur Venise.
Qui ne l'a pas vu passer?
Qu'est-ce qu'il y avait à Venise au Moyen-Âge, à part de l'eau partout qui risquait sûrement d'inonder la ville?
Bah figure-toi qu'à Venise, en hiver, au Moyen-Âge, il y avait de la glace qui remplaçait tous les cours d'eau et surtout les problèmes. Et enfin, il faisait si froid qu'on pouvait même plus boire un verre de vin sans glaçon. Il marchait même sur les cours d'eau gelés.
Le problème, c'est pas le verre de vin. Le vrai souci, c'est qu'à cause de ces grands froids, il y avait beaucoup de pertes de bétail et les gens peinaient à se nourrir. Et là, je ne vous parle même pas des dangers d'ensablement de la lagune qui risquait d'augmenter le niveau de l'eau et d'inonder la ville tout au long de l'année.
Oula, mais ça ressemble un peu à la situation actuelle, les eaux qui montent, les gens ne savent pas quoi faire et finissent par aller patiner.
En vrai c'est ça, sauf qu'on ne pense pas trop patinage en ce moment mais plus catastrophe naturelle. Pendant que nous on parle de réchauffement climatique, parler d'air glaciaire et ça devait vraiment pas être top.
Ça, au niveau vie en ville, ça devait vraiment être la cata. Mais je me demande, ils ont trouvé quoi comme solution? Des gondoles sur patins pour l'hiver et des gondoles pour l'été?
tu rigoles, mais eux ils ont vite pris les menaces environnementales au sérieux.
Comparé à nous...
À cause de cette lagune qui menaçait d'inonder la ville, ils sont même allés jusqu'à imaginer un système pour détourner les fleuves, en espérant que ça réduirait la montée des eaux.
Mais ce n'est pas tout. Ils parlaient aussi de planter des arbres le long de la séparation entre la mer et la lagune pour stopper la potentielle catastrophe.
Ah ouais, quand même, c'est fou qu'autant de moyens aient été imaginés à cette époque. Un peu plus et ils nous ont inventé le barrage.
Ok, un barrage peut-être pas. Mais en soi, t'as raison. Ils sont allés jusqu'à faire venir des pierres d'Istrie pour les protéger.
Et ces problèmes d'eau, ça les touche encore aujourd'hui. Mais ils ont su s'inspirer du Moyen-Âge et ça a dû beaucoup les aider.
Dans l'article, ils parlent de projets pour protéger la ville de nos jours. Par exemple, je peux citer le texte qui nous dit « Les expériences actuelles du MOZ, un barrage gigantesque et théoriquement amovible, chargé de sauver Venise des Aqua Alta. »
Les situations d'avant et de maintenant se ressemblent pas mal finalement.
À croire que, comme Venise, on devrait prendre exemple sur les innovations du Moyen-Âge pour lutter contre ce climat qui n'a vraiment pas l'air de notre côté.
L'article nous apprend même que, malgré tout ça, les Vénitiens ont su apprivoiser les éléments en profitant de voir la vie du bon côté et profiter de la glace avec des activités sur celle-ci, mélangeant mariage et patin.
Oh, comme c'est beau. Mais alors, qu'est-ce qu'on devrait faire? Profiter de la montée des eaux, dû au réchauffement climatique, pour s'acheter un bateau?
Je pense que ce n'est pas ce que l'article sur le livre de Gabriel Bella a voulu nous dire. Ça serait peut-être mieux d'éviter ça.
Puis dans le fond, déjà une mer suffisamment grande pour faire du bateau ailleurs qu'en ville à Venise. Le mieux, ce serait de trouver des solutions pour calmer ce climat et je crois qu'on risque de devoir passer par la case calmons-nous.
Et maintenant, tout en restant dans les vibes italiennes, on parle d'amour avec Sarà perché ti amo de Ricchi e Poveri.
Emozione che cresce piano piano, stringimi forte e stammi più vicino, se ci sto bene.
Volando si va e vola, vola.
ci spostiamo. Se cade il mondo sarà perché ti amo.
Stringimi forte e stammi più vicino. È così bello che non mi sembra vero. Se il mondo è matto, che cosa c'è di strano? Matto per matto, almeno noi ci amiamo.
Tu sais que moi, ti amo, Johanna.
Oh, c'est trop chou.
Notre feuilleton sur la préhistoire arrive tout de suite. Mais avant ça, on continue avec notre programme vers ce qu'on connaît bien, l'école.
Mais attention, pas n'importe quel type d'école. L'école au 19e siècle à Nyon. Et je peux vous dire que ça réserve des surprises. À vos bibles, prêts, amen.
Comme t'es bête. Bon. Si on prend notre école comme exemple, moi je trouve que cette année, on a beaucoup trop de choses à faire. Entre les tests, les devoirs, le travail de maturité...
Et attends-toi à ce que ça empire d'ici l'année pro.
On est d'ailleurs ici pour parler de l'école au 19e siècle. On a plein d'archives à ce propos.
L'école en 1805 ? Alors, on va pouvoir comparer, voir les différences et similarités, non ?
Bon, en vrai, il n'y a pas beaucoup de similarités. Mais ça surprend de voir comment l'école a évolué depuis.
On a en tout cas de quoi vous dire. Plein de choses. On se promène avec 20 pages d'archives de la ville de Nyon depuis presque un mois maintenant.
Ce sont des archives de réunion en fait. Des sortes de rapports faits par un comité qui se rassemblait de temps à autre. Et je peux vous dire, ils en abordaient des sujets.
Par exemple, par rapport aux horaires de cours. On en apprend beaucoup. Comparé à nos 7 heures de cours, eux n'en avaient que 5.
Et ils n'avaient pas l'air d'avoir cours le jeudi.
Le jeudi non, mais eux ils devaient venir en cours les dimanches. Alors, on va pas se plaindre de notre week-end de 2 jours, hein.
C'est vrai que 2 jours de congés dispersés dans la semaine, ça m'aurait plus fatigué qu'autre chose.
Et au niveau des cours, ça se passait comment pour eux?
Il me semble qu'ils avaient plus ou moins des matières similaires aux nôtres, non?
Oui, oui, c'est à peu près ça. Français, maths, histoire. Mais la plus grande différence, c'est qu'ils avaient de longueurs de catéchisme.
Ouais, j'ai lu ça dans un rapport. Ils avaient 1h30 de catéchisme par jour, donc plus de 7 heures par semaine.
Mais attention, attention, ça, c'était... seulement pour les filles.
Les élèves, en général, devaient faire de l'histoire religieuse, en général. Ce qui était, en plus, enseigné par des pasteurs.
Mais c'est étonnant, faire autant de catéchisme et faire les cours de dimanche.
Tu dis ça par rapport à...
Bah, par rapport à la religion qui était super présente à l'époque. Et très importante aussi. Alors quand j'apprends qu'ils bossaient le jour où le Seigneur accorde le repos, moi j'y crois pas.
C'est vrai que ça surprend, mais c'est bel et bien le cas. Il n'y avait pas de jour pour se reposer du Seigneur, apparemment.
En parlant du repos... Vous savez que nous, on a 14 semaines de vacances, ce qui est déjà bien en soi. Mais on arrive quand même à s'en plaindre. Eux, ils en avaient bien moins. Que 5 semaines par année.
Cela dit, ils avaient les mêmes jours de fête que nous. Mais par contre, obligation de se rendre à l'église pour les célébrer.
Attends, tu parles de quel jour de fête?
Bah, tous les jours fériés qui nous sont accordés car on célèbre un événement religieux. L'Ascension, Noël, Pâques. Tout ça, c'est un rapport avec la religion.
Nous, on a pu parler des journées scolaires et des vacances, mais on n'a pas encore parlé des écoliers. Est-ce que l'ambiance des classes était similaire à la nôtre?
Je pense pas. J'ai vu qu'il pouvait être jusqu'à 50 personnes au sein d'une même classe.
Ah bah ça devrait être compliqué de gérer autant de personnes.
Je sais pas ce que ça donnerait si c'était toujours comme ça aujourd'hui.
En tous les cas, ça ne serait jamais aussi catastrophique que dans notre classe.
Et pense qu'on n'est que la moitié de...
Bon, après ce n'était pas forcément toujours désastreux. Il y avait des contrôles fréquents des classes et on a pu lire que, ayant visité le 30 avril la 3e classe, l'ont trouvé en général dans un état assez satisfaisant par rapport au nombre de 49 écoliers dont elle se compose.
C'est sûr que l'autorité des professeurs et la discipline des élèves, c'était autre chose.
En même temps, ils avaient bien raison de le faire, car certains se faisaient récompenser pour leurs bonnes actions ou pour leur bon comportement. Apparemment, pour nous, c'est une normalité de bien se comporter.
Ouais, alors je suis pas sûre que ce soit une normalité pour nos jours, vu que notre classe a définitivement du mal avec ça.
Pour le coup, ce serait cool d'avoir des sortes de prix ou de récompenses pour le bon comportement. Je suis sûr qu'il y aurait tout de suite beaucoup plus d'élèves modèles.
Mais tu sais qu'on en a. On s'en fiche juste plus qu'eux. Donc, à croire que ça motive pas autant que ça, clairement.
Est-ce que je peux vite poser une question?
Et oui, on est là pour en parler.
Quand tu as parlé des profs qui étaient des pasteurs, ils l'étaient tous ou seulement pour le catéchisme et l'histoire religieuse?
Honnêtement, je sais pas du tout. J'ai pu lire un bon nombre d'informations à ce sujet, mais rien ne le mentionnait vraiment. Mais le processus de recrutement, par contre, avait l'air déjà bien strict.
Effectivement, les profs étaient soumis à un règlement spécifique. Ils ne pouvaient donc pas faire ce qu'ils voulaient.
Tu m'étonnes, heureusement qu'ils n'avaient pas tous les droits.
Non, mais avoir un règlement, c'est important, mais il spécifie quoi?
Il contenait toutes les restrictions sur les vacances scolaires, les journées des corps, et même au sujet de l'église.
Attends, l'église avait besoin d'un cadre?
Oui, les professeurs étaient obligés d'aller réciter des textes à l'église, par exemple.
Sûrement pour conserver un cadre au sein des établissements.
Ouais, je vois, pour éviter de trop gros décalages, sûrement.
Par contre, quelque chose m'intrigue dans les archives. C'est à propos du renvoi des professeurs incompétents.
J'ai aussi vu ça. Même s'ils sont de mauvais profs, ils n'étaient pas renvoyés, par simple raison de leur âge.
C'est simple, s'ils étaient trop vieux, ils ne les verraient plus.
Je trouve pas ça très sensé, mais bon, à l'époque, c'est eux qui avaient l'expérience et l'autorité.
Heureusement que c'est plus comme ça aujourd'hui.
Ou presque, on est bien d'accord.
Ils étaient aussi invités à remettre leur témoignage.
Attends, c'est quoi leur témoignage?
Bah, ils avaient le pouvoir de faire un compte-rendu de ce qui allait ou ce qui allait pas dans les classes où ils enseignaient.
Ah, un peu comme un feedback alors.
C'est ça, un peu comme les enseignants peuvent le faire en allant au doyen, sauf que pour eux, c'était fréquent et imposé.
Ouais, en gros, c'est un peu ça.
Mais vous savez en tant que moi à quel point on peut pas se fier à la parole d'une seule et même personne.
Alors, si c'était les profs qui faisaient ces comptes rendus...
Et que les élèves n'avaient pas leur mot à dire...
Bah ça devait pas être très objectif comme feedback alors.
Ok, alors moi j'ai une petite question de curiosité. Au niveau de la propreté et l'hygiène des classes, il me semble que les élèves ne respectaient pas vraiment le matériel qui était à disposition.
Aïe, on lit qu'il y avait pas mal de dommages, à croire que le respect ça s'apprend pas.
Bah clairement les temps n'ont pas su changer ça, hein.
Toujours certains élèves qui s'amusent lorsque les profs ne sont pas là...
Je vois pas du tout de quoi tu parles. Donc continuons de parler de religion, on reste dans le thème, on écoute maintenant Taming New Church de Hozier.
My lover's got humor, she's the giggle at a funeral, knows everybody's disapproval, I should have worshipped her sooner. If the heavens ever did speak, she's the last true mouthpiece, every Sunday's getting more bleak, a fresh poison each week, we were born sick. You heard them say it. My church offers no absolutes. She tells me worship in the bedroom. The only heaven I'll be sent to is when I'm alone with you. I was born sick, but I love it. Command me to be well. Amen. Amen. Amen.
Avec cette prochaine chronique, on va vous parler de la religion, de mini-humains et du sperme.
Ah, vous l'attendiez, on vous l'a promis, le voilà! L'épisode sur l'histoire de la préhistoire continue, vous écoutez l'épisode 2 et je peux vous dire que ça avance au niveau de l'évolution, enfin, à voir.
Bon, nous on va vous parler de théories qui font penser à la magie, l'apparition soudaine de petits animaux, ouais, enfin de ce que pensaient les gens au 16e siècle en fait.
Bon, ça a rien de magique, c'est scientifique à la base. Ça sera par contre un épisode un peu spécial. On va vous parler de préhistoire tout en parlant de sperme, théorie démentie et sexe. J'espère que ces sujets ne sont pas tabous pour vous.
Cette époque me faisait quand même bien rire. Les scientifiques ignoraient. Certaines de leurs recherches les tournaient pour aller dans le sens de la génération spontanée.
Ce n'est pas vraiment de l'ignorance. Ils suivaient juste les idées de la Genèse. En même temps, si on était croyant, c'était dur de penser autrement.
C'est bien pour ça que ça a son importance dans l'histoire de la préhistoire. Et au fait, allez, pour les gens qui nous écoutent, c'est quoi la génération spontanée ?
Une explication donnée au 19e siècle par rapport à l'apparition de nouvelles espèces, de façon spontanée. Pour nous aujourd'hui, leurs théories sont un peu tirées par les cheveux, mais bon.
Dans ce que les scientifiques proposaient au XVIIe siècle, par exemple, on pouvait retrouver des recettes de création d'animaux vraiment étranges comme celle-ci, par exemple. Alors, creusez un trou dans une brique, mettez-y de l'herbe de basilic bien pliée, appliquez une seconde brique sur la première et exposez le tout au soleil. Quelques jours plus tard, le basilic ayant agi comme ferment, vous verrez naître de petits scorpions.
Ça a l'air totalement absurde. Et pourtant, c'est Jean-Baptiste Van Helmont, grand scientifique et célèbre fondateur de la chimie pneumatique, qui l'a élaboré.
Je comprends vraiment pas comment des scientifiques de cette ampleur peuvent interpréter la naissance d'animaux de cette manière. Je sais pas, ils étaient complètement stupides ou...
De nouveau, c'est pas vraiment une question de stupidité. C'est juste qu'ils vivaient à une époque où l'on croyait beaucoup dans la Genèse. Ils devaient obligatoirement trouver une explication aux éléments qui la remettaient en cause. Les croyants n'arrivaient pas à comprendre l'arrivée de nouvelles espèces. Selon eux, elles ont toutes été créées par Dieu au même moment et de façon parfaite. Ça signifie pas de nouvelles espèces et surtout pas d'évolution.
Cette genèse et cette façon de penser, enfin cette culture, elle mettait en avant Dieu qui a tout créé. Avec du recul, je trouve que c'était surtout une source d'épuisement pour les scientifiques.
Ah bah c'est sûr que d'essayer de trouver des explications surnaturelles à tous ces phénomènes qui sont en fait naturels, ça nous a fait beaucoup de temps.
Et encore, c'était plus compliqué que ça. La génération spontanée, c'était que le début des théories qui empêchaient de penser évolution. Peu à peu, la théorie de la procréation a fait son apparition au XVIIe siècle.
Dans cette théorie, il y avait différentes idées et même différents groupes. D'abord les préformistes, qui pensaient que c'était la femme ou même l'homme qui contenait tous les éléments pour donner la vie à eux seuls.
Et voilà, c'est parti pour les théories des spermistes et des ovistes.
Qui n'ont été contrées que 2 siècles après par le microscope.
Ils nous spoilent depuis le temps qu'on attend d'en parler.
Pardon, on continue.
Leurs idées me surprennent, je pense qu'on est d'accord. Par exemple, les spermistes croyaient que l'apparition se faisait uniquement à l'aide des spermatozoïdes.
Et en effet, c'est un étudiant même qui a découvert les spermatozoïdes. Et ça, ça a apporté des problèmes. Notamment quand ils ont commencé à dire qu'ils contenaient des mini-humains attendant à grandir.
Donc, ils pensaient que l'ovule ne servait à rien et qu'on n'évoluait pas. On ne faisait que de grandir.
Ah bah c'est bien ça. Mais c'était même pas le pire. Ils pensaient qu'il s'agissait d'une sorte de poupée russe, que toute la famille d'un individu se trouverait dans le même spermatozoïde.
Ouais, bien sûr. Il faut quand même rappeler que les spermatozoïdes ne font qu'environ 2 nanomètres.
Ah bah c'est exactement ça. Bon, après il faut aussi dire que les ovistes n'avaient pas forcément des idées plus sensées pour nous aujourd'hui.
Ils étaient un peu opposés aux spermistes en quelque sorte.
Let's fight.
Vu qu'ils pensaient que l'entièreté des informations nécessaires se trouvait dans les ovules. Ils disaient aussi que le sperme n'avait absolument aucune utilité, bref.
En fait, quand on y réfléchit, les préformistes n'ont fait que présenter des théories qui sont juste complètement fausses.
Ah bah elles sont fausses pour nous aujourd'hui, mais c'est parce que nous avons beaucoup de recul que nous pouvons dire ça. Si on se met à leur place, si on veut aller dans la direction du cadre culturel de l'époque, elles n'ont pas l'air si fausses que ça, non ?
C'est vrai que dans leur situation, c'est plutôt arrangeant. Enfin, ça concorde avec la théorie de la Genèse, des petits hommes qui grandissent et n'évoluent pas. Ça aurait bien montré que la vie avait été créée en une seule fois.
Ah bah quelle superbe théorie pour tous ceux dans le cadre fermé à l'évolution.
Va dire ça à un biologiste, on verra bien ce qu'il en pense de cette superbe théorie.
Sinon, en plus des préformistes, il y avait aussi les épigénistes. Quant à eux, ils pensaient que les informations nécessaires venaient des 2 parents en même temps, pas d'un seul. Attention, ça se complique.
Bah non, c'est la génétique qu'on connaît aujourd'hui. Ils ont donc enfin trouvé la vérité et sont passés au-delà de leurs idées un peu fermées, non ?
Justement pas. La découverte de la génétique sera bien plus tard grâce à Mendel, un grand scientifique. Disons que les épigénistes ont fait un bon pas vers l'avant, mais ce n'est pas grâce à eux que nous avons pu concevoir l'existence de la préhistoire.
Pour résumer, la notion de la préhistoire chez auditeurs et auditrices, elle a été partiellement définie par un processus de développement long, donc dans des termes un peu plus courants, l'évolution.
Disons que cette notion de temps n'a pas vraiment été envisageable jusqu'en 1859 par Darwin. Mais ce n'est pas à nous de vous expliquer cela. Rendez-vous dans le prochain épisode.
Bon, revenons au sujet, j'ai une question. Les gens à l'époque pensaient quoi des épigénistes ?
Oula, à l'époque, si tu penses à une théorie qui contre le récit de la jeunesse, t'es mal vu.
Oh mon dieu, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais les épigénistes me font penser aux monogénistes. Tu sais, ceux qui croyaient que tous les humains sur Terre étaient des enfants d'Adam et d'Ève.
Ah bah n'oubliez pas les polygénistes aussi. Ils pensaient la même chose, mais que c'était seulement le cas pour les Européens et non toutes les races.
Aïe, on arrive à du racisme. Cadre culturel fermé à l'évolution plus racisme, on est mal.
Ouais, mais enfin, la diversification du genre humain est apparue. Les gens ont finalement remis en cause l'origine et la place de l'homme sur Terre.
Attention, spoiler, la suite sera dite dans un prochain épisode.
J'avoue. Bon, revenons à la génération spontanée, vu qu'on n'a pas encore parlé de sa mort, de sa fin.
Ouais, ben en même temps, elle a mis longtemps à s'achever, hein.
Effectivement, il a fallu plusieurs découvertes scientifiques avant que la théorie de la génération spontanée meure.
Et encore, les gens refusaient de sortir de leur cadre culturel.
Ouais, c'est pas faux. En effet, au 19e siècle, un biologiste appelé Pouchet finit par pondre une théorie pour continuer à parler de la génération spontanée.
Lui, il a dit que les animalcules, donc des sortes de petites créatures en fait, pouvaient apparaître dans des conditions isolées à haute température et à pression atmosphérique normale.
Ouais, tu penses bien que tout le monde le croyait, parce que pour une fois dans l'histoire de cette génération, il avait des profs de laboratoire pour soutenir sa thèse.
Et finalement, Pasteur est intervenu au 19e siècle. Il disait que les animalcules que Pouchet avait trouvés étaient seulement des microbes, et que ceci était normal, car l'air en contient des quantités énormes, qui sont prêtes à se développer dès qu'elles trouvent un milieu favorable.
Et Pasteur, en 1862, il annonce « Les poussières en suspens dans l'air sont la condition première et nécessaire de l'apparition de la vie dans les infusions. »
Et bim, ceci met enfin fin à la génération spontanée, qui a vécu à peu près 200 ans.
Ah là, c'est dommage que ce monsieur Pasteur ne soit pas là pour régler quelques-uns de nos problèmes actuels. Covid, variole du singe, j'en passe, il aurait été utile. Allez, on reste dans un mood sensuel, dans un mood sexe et plein de magie. On écoute Lipstick pour un peu de chaleur. Put some lipstick on avec Kungs.
Dangereusement de la fin de cette émission, alors parlons danger, parlons risque. Et ce qu'on vous tease, c'est pas du fake, du moins on va essayer. Quoique, c'est notre chronique fake news.
Vous n'en pouvez plus entendre parler, nous non plus, mais on va quand même vous faire une chronique à ce sujet.
On parle bien sûr du Covid-19, vous savez, le petit virus présent depuis 2 ans déjà.
Ouais, petit virus, c'est ça. Bon, vachement inquiétant et ravageur qui a amené tout le monde à chercher des solutions pour l'éliminer.
En un an, on était déjà passé au travers des masques, du gel hydroalcoolique et des confinements et finalement un vaccin a été trouvé.
Il aura pourtant fallu peu de temps aux gens pour s'en plaindre et commencer à pondre une série de fake news pour aller contre ce vaccin.
Allez, je vous en raconte une qui tombe pas mal ses dents sur Facebook. C'est l'histoire d'une dame qui se promenait vers un cimetière et en regardant son téléphone, recevoir plein de signaux Bluetooth. Elle a pensé que c'était les morts qui les aimaient.
Ah mais oui, j'ai vu passer cet article. Elle a même fait des photos de son téléphone pour que les gens la croient.
Ah bah figure-toi que ce qu'elle voulait dénoncer, c'est que le vaccin contre le Covid-19 injecterait une puce dans notre corps pour nous surveiller et que les morts étaient vaccinés et donc connectés via Bluetooth via cette puce.
N'importe quoi.
J'ai lu une autre rumeur dans un article des observateurs de France 24 qui tournait pas mal sur Twitter, avant que le compte ne se fasse suspendre. En gros, la rumeur disait qu'une dame présente dans un avion, en fait, elle pensait la même chose, parce que sur son téléphone, elle voyait plein de noms de réseaux Bluetooth comme AstraZeneca qui apparaissaient, puis elle se disait « Oh, mais ça a sûrement un lien avec le vaccin du Covid
!» Heureusement qu'il y a des experts pour démonter ces hypothèses. S'il y a des gens sceptiques par rapport à ça parmi vous, rassurez-vous, ce sont des fausses rumeurs. Premièrement, Olivier Ezrati, un expert en technologie numérique, nous assure qu'une puce Bluetooth aurait besoin d'une batterie et d'une antenne pour fonctionner.
Ah, mais oui, justement, il a dit dans le même article qu'il n'existait pas de puce assez petite pour être injecté via une seringue.
Ouais, et puis concernant les noms des périphériques Bluetooth, bizarre. Je peux vous l'expliquer moi-même en fait. Il suffit d'aller dans les réglages de son téléphone et paf, on peut appeler notre périphérique Bluetooth comme on veut. Bon, moi c'est Rhinoceros iPhone par exemple.
La recherche est néanmoins en train de mettre en place un système de capteurs pour le corps humain, mais je vous rassure, c'est pour la bonne cause. Celle d'aider les personnes diabétiques par exemple.
Ils n'ont fait que jouer avec ces informations pour finir par créer un fake news.
Ouais, mais ce qui est compliqué avec ces fake news, c'est de le démanteler le vrai du faux, en fait. Surtout quand certaines personnes d'influence les propagent.
Je pense notamment au commentaire de la comédienne Juliette Binoche qui dit en parlant des groupes financiers internationaux « Ils manipulent. Les vaccins qu'ils préparent en font partie. Mettre une puce sous-cutanée pour tous, c'est non. Non aux opérations de Bill Gates, non à la 5G.
Oh là là. »
Cette comédienne ne fait que de soutenir la propagande des fake news. Mais comme nous l'avons dit dans cette chronique, l'idée d'une puce placée sous cutanée n'est pas envisageable.
Si Juliette Binoche fait allusion à la 5G, c'est car ces puces serviraient également d'une mini-antenne portable amplificatrice de 5G. N'importe quoi.
Dans tout cela, il faut quand même pas oublier quelque chose. On n'a pas de puce dans le corps, ça c'est sûr. Mais un élément que nous avons choisi volontairement de mettre à proximité de nous est déjà en train de nous surveiller. Il est peut-être à côté de toi, ou t'es en train d'écouter ton émission avec, ça fait peur, hein. Non mais je parle de notre téléphone portable, et ça, c'est bien plus efficace que n'importe quelle puce, je t'assure.
Ah bah nous arrivons malheureusement à la fin de notre émission, remplie d'inondations, d'apparitions soudaines de petits scorpions, de cultures du 17e et 18e siècle, et de l'école. Que de diversité en fait. Nous, on a vraiment apprécié passer ce moment, et on espère que vous aussi. C'était Johanna avec Robin.
Merci à tous.
Eros.
Ciao, ciao.
Et Ellie à la technique.
Ciao les amis.
Et vous avez écouté la radio la plus rapide du monde, la radio du gymnase de Nyon.
Nyon.
Assurez-vous d'écouter la prochaine émission pour la suite de la préhistoire et d'autres chroniques remplies de sujets qui, j'en vous assure, vous intéresseront.
Allez, est-ce qu'on fait une remise d'antenne aussi rapide que notre radio ?
Sur Radio Bus, vous écoutez la radio la plus rapide. Radio Gymnase de Nyon.